ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 18 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleaux. Bienvenue à Ça vaut le détour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. C'est notre première émission cette semaine. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clé CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_M sur Twitter. Vous pouvez nous soumettre des sujets d'entrevue ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Madame Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. On parlera de l'inclusion des personnes vivant avec le syndrome de Down et particulièrement d'exemples positifs dans les médias et dans la sphère publique. Elle sera dans nos studios à 12h45. En deuxième partie d'émission, on parle aussi à M. Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. On fait un retour sur la sortie publique de divers organismes concernant les lacunes des soins à domicile et de l'impact sur les aînés qui a eu lieu la semaine dernière. Le réseau FADOC se joignait entre autres au Conseil pour la protection des malades, au regroupement des aidants naturels du Québec et à la Fédération interprofessionnelle de la santé. On poursuit notre série En route vers Rio, car on s'entretient avec l'escrimeur en fauteuil roulant, M. Pierre Mainville, premier médaillé du Canada en championnat du monde d'escrime en fauteuil roulant. C'était en 2010 et il avait gagné la médaille de bronze. Il a depuis participé aux Olympiques d'été de Beijing en 2008 et à ceux de Londres en 2012. Il est actuellement en préparation pour les Jeux de Rio en 2016. Mais tout d'abord, ma première invitée est humoriste, auteure, grande communicatrice et elle a surtout un parcours hors du commun. Elle s'inspire de sa vie et de sa maladie pour nous faire rire et réfléchir et comme elle le dit si bien elle-même, elle est tout simplement pas barrée. Ça nous fait très plaisir de l'accueillir dans nos studios ce midi, Madame Janie Barré. Bonjour!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, super bien, merci.
Janie Barré, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous lancez cette semaine un livre intitulé 157 fractures. 157 fractures, c'est déjà un titre qui inusité, qui attire l'attention. Est-ce que c'est une biographie?
Oui, c'est un livre sur ma vie. En fait, j'ai écrit ce livre-là avec mon père. Mon père a écrit de 0 à 18 ans tout ce qui m'est arrivé. Et moi, j'ai continué le livre, j'ai écrit de 18 à 36, l'âge que j'ai aujourd'hui. Fait que ça fait un livre assez complet parce que, oui, c'est ça, 157 fractures, c'est énorme. C'est pas juste une, c'est plusieurs.
Est-ce que c'est littéralement le nombre de fractures que vous avez eues dans votre vie?
Oui, je suis exactement rendue à ce chiffre-là. Puis j'espère en rester là. Ouais.
On vous le souhaite. 157 fractures, bon, ça vient déjà de piquer la curiosité de nos auditeurs. On va faire une petite mise en contexte. Vous vivez avec l'ostéogenèse imparfaite, qui est une maladie génétique, qui est aussi appelée les os de verre dans le langage populaire. Faites-nous un bref aperçu un peu de votre condition.
Oui, c'est une maladie à la naissance, dans le fond, pour que les gens puissent comprendre. L'ostéogenèse imparfaite, c'est comme avoir l'ostéoporose au pire stade. C'est que, dans le fond, tes os sont tellement fragiles que même, mon Dieu, même à te choumer, je pouvais me casser une côte. Pour te donner un exemple, à un moment donné, au primaire, en effaçant, excuse, dans mon livre, j'ai malheureusement effacé un peu trop fort. Je me suis fracturé le poignet. C'était tout le temps des bad luck. C'était ridicule. Là. C'était pas évident, là, mettons. Là. Je dois t'avouer que j'avais à peu près une fracture là, par semaine. Ça pouvait même arriver des fois deux dans la semaine. Tu sais, c'est quelque chose d'assez décourageant, mettons. Oui,
oui, oui. Mais justement, ça prend vraiment beaucoup de place dans le quotidien, surtout quand on est enfant. J'imagine, justement, on n'a pas conscience tout le temps de ce qu'on peut faire sans risque.
C'est ça. À un moment donné, je me suis vite quand même... j'ai vite quand même compris, tu sais, le fonctionnement de tout ça. Des fois, je sentais que j'allais casser, puis je pouvais m'arrêter, là, c'est pas des farces, une seconde avant le crack, tu sais. À un moment donné, ça vient tellement comme quotidien tout le temps, de chaque mouvement, que j'étais rendue assez intelligente avec la maladie, là. Je commençais à comprendre, puis je m'arrêtais, là, tu sais, des fois. J'avais le temps, puis des fois, j'avais pas le temps, là. Je me suis quand même rendue à 157 quand
C'est
même, là.
ça, on voit quand même
C'est
que...
ça. C'est une drôle de vie, par exemple, pour un enfant. C'est pas une vie... facile. Non.
Vous êtes à 36 ans. Est-ce que votre
Ouais.
état est plus stable maintenant?
Oui, ça va très bien. J'ai reçu un traitement, moi, la Redia, à l'hôpital, même que je suis la première femme à avoir pris ce traitement-là. Aujourd'hui, il est donné aussi à ceux qui font de l'ostéoporose en comprimé. Il donne à tous ceux qui font de l'ostéoporose. C'est ce médicament-là qui m'a amélioré ma condition de vie. C'est un médicament intraveineux que j'ai reçu pendant 8 ans. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je vais mieux. Puis là, je touche du bois, là, tu sais, je touche tatab en bois parce que ça va faire ça 10 ans que je me suis pas fracturée. Fait que ça va vraiment bien. Puis je fais attention, je suis très, très, très prudente.
Oui, ben, sans doute quand même, parce on reste tout de même avec la maladie, donc il y a toujours des risques, même si vous êtes plus solide.
Toujours.
Ce qui vous permet d'avoir, en fait, d'être très active. Vous avez
Oui.
vraiment une vie très, très, très active. Donc, ce parcours-là de 157 fractures, ce ne sont pas seulement les moments à l'hôpital qu'on raconte dans le livre. Il y a d'autres accomplissements que vous partagez.
Ouais, tu sais, ça reste qu'en bout de ligne, j'ai comme pratiquement passé la moitié de ma vie à l'hôpital Shriners à Montréal. Mais comme tu dis, les moments où j'allais mieux, j'ai fait d'autres choses, là. Tu sais, je veux dire, même que je fais du sport, là, aujourd'hui, là, je fais des marathons, je m'entraîne au club de boxe, ça fait 4 ans, assis en fauteuil roulant, là. Tu sais, je fais tout ça avec ma chaise, puis je reste pas chez nous, ces breaks, là. Tu sais, je veux dire, je suis une fonceuse, là. Puis là, ça va bien, fait que j'en profite, ouais.
Ouais, justement, des sports, des marathons,
Ouais.
ben, comme la course finalement, combien de
Ouais.
kilomètres?
Ah, ben là, c'est un autre défi que je me relève cet été. Je me suis inscrite encore au demi-marathon de Montréal, 21,1 km. J'ai battu mon temps l'année passée, l'été passé, de 9 secondes. Fait que là, j'espère essayer de le battre d'une autre seconde de plus. Ouais.
Wow,
C'est
félicitations.
quand même des. C'est ça. C'est 21,1 km. Je le fais avec ma chaise régulière, là, de tous les jours, là. J'appelle ça comme ma chaise d'hôpital. C'est pour être égal avec tout le monde qui court.
Oui, absolument. Mis à part le sport qui occupe une grande place dans votre vie, vous avez aussi d'autres passions, l'humour que vous avez découvert dans les dernières années.
Ouais, ça fait un an et demi, là, je suis nouvellement humoriste. Je me promène un petit peu partout à roder des blagues, des numéros, dans des bars, dans des salles, au Québec. J'essaie de me booker, là, pour ça, puis j'espère que c'est ça, là, de faire le plus de spectacles possibles, de prestations pour, c'est ça.
Comment c'est arrivé? Parce qu'on va le dire, si vous faites, il y a des vidéos de vous sur YouTube, on peut taper votre nom puis on va vous trouver certains numéros ou des extraits de votre spectacle. Comment c'est arrivé dans votre parcours, ce style stand-up là? Parce qu'on est vraiment seul devant public avec un micro, c'est tout.
Moi, j'ai décidé là l'année passée. Ben, en fait, ça fait un an et demi là, j'ai décidé cette nouvelle carrière-là. Je suis une fille qui est drôle, moi, dans la vie. Tu sais, je veux dire, je suis ultra positive. Je suis toujours de bonne humeur malgré tout ce qui m'est arrivé. Puis moi, je me dis que la vie est beaucoup plus facile en la prenant en riant. Puis j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire rire les gens pour leur montrer. Je veux dédramatiser un peu là, que le monde y comprenne que même si tout ça m'est arrivé, je veux dire, la vie est belle. Tu sais, on peut rire, puis c'est le meilleur remède, c'est ça. C'est de s'amuser, puis de garder le sourire, puis j'ai envie de faire sourire les gens, puis de les amuser, ouais.
Est-ce que le handicap et la maladie, justement, ça peut être des sources d'inspiration pour vos numéros?
Ouais, ça peut être une source d'inspiration, parce que j'inspire énormément de gens, même je le dis dans mon livre. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, je suis une fille très, très positive, puis ça m'a jamais empêché de foncer, là. Je veux dire, moi, avec mes numéros d'humour, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de les faire rire. Puis avec mon livre aussi, j'essaie de démontrer dans mon livre que malgré tout ce qui m'est arrivé, comme je l'écris, tu sais, c'est ça, c'est de garder le moral, puis de pas se décourager, de savoir que le possible est immense dans la vie. Puis que c'est possible d'être heureuse malgré toutes les situations difficiles qu'on peut vivre. Il y a toujours espoir en bout de ligne. Ça, je l'ai écrit beaucoup, beaucoup dans mon livre. C'est ce que je veux faire. Moi, je veux aller inspirer les gens avec mon livre.
Oui, mais et en même temps, l'humour, c'est un bon moyen aussi de rejoindre un public puis de passer certains messages.
La même chose du côté humour aussi, exactement.
Mm-hmm.
Mon spectacle que je suis en train de monter, je raconte des blagues, mais j'ai un petit côté constructif aussi là-dedans. Je veux que les gens sortent de la salle puis qu'ils fassent « aïe, aïe ». Elle nous a fait rire un bien drôle, mais elle vient de nous motiver aussi, tu sais.
Mm-hmm.
Ouais.
Mm-hmm. Justement, vous êtes bonne communicatrice et c'est une voie aussi que vous voulez emprunter et développer, celle de faire des conférences, d'aller à la rencontre des gens, de leur partager votre parcours et votre vécu. Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que c'est en développement en ce moment?
Ben oui, dans le fond, mon livre, il sort jeudi, mon grand lancement. Puis moi, avec mon livre, ce que je vais faire, c'est que à partir du mois de septembre, je vais aller donner des conférences dans les écoles secondaires à travers le Québec. Je veux aller justement motiver les jeunes. Je veux les inspirer avec mon parcours de vie, les sensibiliser aussi.
Oui, pourquoi c'est important de rencontrer les jeunes?
Pour leur montrer que la vie, là, c'est fragile. Hein? Tu sais, la vie est peut-être fragile, mais tu sais, oui, ça a été fragile dans mon cas, là, tu sais, mais c'est fragile pour tout le monde. Puis je veux aller leur montrer de qu'on peut tous s'en sortir. Tu sais. Je veux aller leur démontrer, tu sais, qu'avec l'énergie positive, on peut foncer puis réussir des belles choses. Je veux aller les motiver à réaliser leurs rêves, même les plus fous, là. Tu sais, faut pas s'arrêter, là. T'sais,
mm-hmm.
Non. Non, c'est important, ça. Puis je donne aussi, en ce moment même, des conférences aussi. J'offre mes conférences dans les entreprises. Et puis, éventuellement, là, ce que je veux faire aussi, c'est d'aller donner des conférences dans des grandes salles, aussi au grand public. Je veux vraiment, mm-hmm. en résumé, je veux m'adresser au plus de gens possible, plus de monde possible, oui.
Janie Barré, avez-vous des modèles?
Bien, c'est certain. J'aime beaucoup Chantal Petitclerc, ça, c'est sûr. Moi, depuis ma jeune enfance, je l'ai toujours admirée, cette femme-là. J'ai eu la chance aussi de courser contre elle deux fois sur le circuit Gilles Villeneuve en vélo à main. C'était vraiment le fun. C'était un de mes rêves, en fait, que j'ai réalisé. Puis, oui, c'est un modèle pour moi de femme très courageuse et persévérante. Ça me fait plaisir de courser avec elle, oui. C'était toute une chance que j'ai eue.
En tout cas, on peut dire ici à Canal M que vous allez devenir, si ce n'est pas déjà fait, un modèle aussi pour plusieurs personnes. Sans doute beaucoup de gens que vous allez rencontrer sur votre parcours dans les prochains mois, dans les prochaines années. On vous souhaite un très bon succès. Je rappelle que le lancement du livre se fait au Studio 57 ce jeudi 21 avril à Saint-Hyacinthe. C'est publié sur les éditions Sarrazin.
Oui, éditions Sarrazin, ouais.
Comment on fait pour se procurer le livre?
Les gens, en fait, le soir du lancement, vont pouvoir acheter mon livre sur place. Si ils ne peuvent pas se déplacer, il n'y a vraiment pas de problème. En fait, vous pouvez aller dans toutes les librairies au Québec. Vous n'avez qu'à dire le titre du livre, 157 fractures, histoire vraie, par les éditions Sarrazin. Il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir rentrer mon livre aussi en même temps, du même coup, là, dans la librairie. Fait que ça aussi, ça m'aide énormément. Et c'est aussi disponible, les gens peuvent l'acheter sur Internet, édition Sarrazin. Ils tapent ça là, sur le net, puis pas de problème, il est en vente. C'est ça, de cette façon-là également.
Parfait. Alors, ce livre 157 Fractures, Janie Barré, que vous avez coécrit avec votre père, Bernard Barré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je te remercie énormément.
Dis-moi c'est quoi ton petit nom? Mon corps est KO sous les néons. Je peux pas résister à la tentation. Je te fleurs, non j'ai pas peur. Ton parfum m'envoûte, je suis en déroute. T'as tout gagné à ta façon. Je peux pas résister à la tentation. Baby, je commence tu bouges. Baby, je commence tu grooves. On pourrait en faire une vraie chanson. Un duo d'enfer, notre façon.
Je peux pas résister à la tentation. Tes deux hanches et l'avalanche. Ton regard de feu me rend fiévreux. Ta bouche vermeille m'étincelle. Viens tout près de moi, t'es si charnel. Je peux pas résister à la tentation. Baby, j'aime comment tu bouges.
Alors, c'est Tentation de King Melrose sur son album Bleu paru en 2015. Une découverte pour moi ce midi. J'en parlais en début d'émission. Cette série que l'on fait en préparation des Jeux paralympiques de Rio. Donc, c'est En route vers Rio où on interviewe chaque semaine des acteurs importants dans le déroulement de ces Jeux. C'est notre premier athlète à qui on parle aujourd'hui. Au sein du Comité paralympique canadien, il est surnommé le perfectionniste car son objectif est de ne faire aucune faute lors de chaque combat. Alors, mon prochain invité représente un bon espoir pour le pays au prochain jeu à Rio. Monsieur Pierre Mainville, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien, vous?
Oui, merci. Vous arrivez d'un séjour d'entraînement en France. Comment ça s'est passé?
Ah, ça s'est bien passé. J'ai pu tirer avec à l'escrime parce que je suis un escrimeur là, donc alors j'ai pu tirer avec plusieurs pays, puis ça s'est quand même bien déroulé là. On a pu mettre en place les dernières stratégies qu'on a apprises.
Et vous aviez, on lisait récemment que vous aviez une blessure au coude qui vous a ralenti dans votre préparation pour les Jeux de Rio. Est-ce que la guérison va bien maintenant? Est-ce que vous êtes complètement rétabli?
Ah oui, ça, je suis rétabli à 100%. Là, c'est l'an passé, à peu près à la même date que maintenant. Je m'étais déchiré l'épicondyle, dans le fond, le tennis elbow que tout le monde connaît plus sous ce nom-là. Puis il a fallu que je me fasse opérer. Donc, ça n'a pas été long que je me suis fait opérer, puis ils m'ont rattaché avec une vis là, le muscle, ben, le tendon à la bonne place. Puis c'est ça, là, aujourd'hui, ça m'a pris 6 mois de rétablissement, donc j'ai pas pu faire de compétition pendant ce temps-là. Puis, mais là, aujourd'hui, là, je vais bien, là, puis l'entraînement se fait bien. Il faut juste rattraper le temps que j'ai perdu.
Mm-hmm. Aviez-vous peur de ne pas pouvoir revenir au niveau de compétition que vous aviez atteint avec cette blessure, ou votre évaluation, elle était assez bonne et donc le rétablissement allait bien se passer?
Ben c'est sûr qu'au début, j'avais beaucoup de douleurs, puis j'avais pas nécessairement la souplesse. On se pose toujours des questions parce qu'à chaque fois qu'on se fait opérer, on ne sait pas si ça va être rétabli à 100%. Même les médecins, ils veulent pas dire si c'est pour venir ou pas, parce que sinon ça fait des faux espoirs. Donc, mais ça a super bien été. Le tendon, quand il a ouvert, il était voir le tendon, puis le tendon était beau, là, il était pas trop. Mal en point, donc
abîmé.
Il est plus rattaché.
Monsieur Mainville, on va revenir un peu dans le temps. Le sport est arrivé rapidement dans votre vie après un accident survenu en 2002. Est-ce que vous étiez déjà quelqu'un de très sportif?
Oui, ben quand même. J'ai toujours été très sportif, même à la jeunesse. J'ai toujours pratiqué tous les sports sans être excellent dans aucun. J'étais bon, mais pas excellent. Puis, aussitôt que j'ai eu mon accident, ça s'est passé le 23 juin 2001. J'étais à la recherche d'un sport plus individuel. Puis j'ai essayé plusieurs sports. Puis quand j'ai essayé l'escrime, moi je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis au début, j'ai commencé une fois par semaine, puis après ça deux fois, après ça à tous les jours, puis après ça, j'ai voulu faire une compétition. Puis là, mon histoire d'amour avec l'escrime a continué.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que votre préférence est allée à l'escrime?
Ah ben, l'escrime, c'est un sport qui est très rapide puis qui demande beaucoup de stratégie. Il faut analyser bien l'adversaire pour pouvoir adopter la bonne stratégie contre lui. Donc moi, je trouvais ça très intéressant. Puis c'est surtout quand on l'essaye, là, en l'essayant, on se rend compte que c'est quoi un duel, puis c'est quoi la beauté de ce sport-là. Donc c'est ça qui m'a vraiment attiré. Puis ça aurait pu être un autre sport, mais moi, ça c'est tombé là-dessus. Là. Puis, je l'ai essayé, puis j'ai su tout de suite que c'est ça que je voulais faire.
Vous faites des combats à l'épée et au sabre aussi. Quelle est la différence entre les deux?
Ben, l'épée, c'est une arme d'estoc qu'on appelle. C'est une arme que c'est seulement que la pointe qui doit toucher l'adversaire, qui peut toucher l'adversaire. Tandis que le sabre, c'est l'arme de la cavalerie. Donc, on peut toucher autant avec le tranchant, le faux tranchant, que la pointe aussi. Puis, pour toucher à l'épée, on peut toucher partout, puisque c'est l'arme du duel. Donc, on peut toucher autant les pieds que la tête. Tandis que le sabre, c'est seulement le haut du corps. C'est simple, pourquoi? C'est que, puisque c'est l'arme de la cavalerie, donc on était sur un cheval. Mm-hmm. Donc, c'est même si on touchait les jambes, le combattant pouvait continuer à se battre, puisque c'est le cheval qui se déplaçait.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont différentes dans ces deux modèles de combat?
Oui, c'est sûr que là, à l'épée, il n'y a pas nécessairement de règlement pour la convention, à savoir qui attaque. Donc, si les deux touchent en même temps, les deux ont un point. Tandis qu'au sabre, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut celui qui attaque, si les deux touchent, dans le fond, c'est celui qui attaque qui a la priorité. Sinon, il faut faire une parade, donc, pour avoir le droit à la riposte. Donc, celui qui est à l'attaque, c'est lui qui aura le point, mais si on fait une bonne parade ou si on réussit à faire passer dans le vide à ce moment-là, c'est nous qui avons l'attaque, on peut attaquer et avoir le point.
Mm-hmm. Vous avez participé à combien de Jeux paralympiques avant Rio?
Rio seront mes troisièmes. Donc, il y avait la Chine en 2008, en 2012 c'était Londres, puis là, ce serait Rio là, pour 2007.
Il reste des compétitions importantes d'ici les Jeux, donc qui sont en septembre. Est-ce que vous êtes en entraînement à temps plein?
Oui. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, là, l'entraînement. Donc, on s'entraîne à tous les jours, des fois deux fois par jour. Puis, c'est sûr que là, les grosses compétitions, comme c'est au mois de mai, là, on a une Coupe du monde à Laval qui est la dernière qui compte dans les Coupes du monde, mais qui compte pour les points. Puis, à la fin mai, ça se passe à Sao Paulo, au Brésil, que là, c'est le régional. Dans le fond, c'est seulement que l'Amérique. Puis là, c'est les dernières places qui vont se disputer. Là. Donc, si on fait la médaille d'or, on a une place pour aller à Rio.
Mm-hmm. Les mois, voire l'année qui précède les Jeux, sont très intenses pour les athlètes. Comment arrivez-vous à conjuguer le sport et donc tous ces entraînements, ces compétitions avec la vie de famille?
Ben moi mon sport c'est mon travail d'une certaine façon. Donc c'est sûr que j'ai pas en plus à aller au travail, donc je peux bien conjuguer avec ça. Donc dans le jour, je peux m'entraîner, puis le soir avoir la vie de famille comme normal parce que les enfants vont à l'école. Donc pour moi, c'est quand même relativement facile de mettre ça tout en place, contrairement à des étudiants qu'eux autres doivent aller à l'école, doivent s'entraîner, puis en plus passer du temps avec leurs amis, leur famille. Donc pour moi, je pense que je l'ai plus facile.
Mm-hmm. Est-ce qu'il vous arrive de penser à la vie après le sport? Avez-vous des projets de carrière une fois que vous rangerez l'épée?
Oui, je suis vraiment rendu là. Donc, c'est sûr que moi, je veux... c'est sûr que nous, on part pour l'Espagne pour environ 10 mois après les Jeux. Donc, pour aller apprendre l'espagnol puis faire l'école à la maison pour les enfants. Mais pour les projets, là, c'est sûr que je vais me trouver un travail puis faire autre chose. Là. Le corps, à un certain âge, parce que je suis rendu à 42 ans, là, donc le corps me parle et me dit que m'entraîner à tous les jours, là, ça commence à faire mal et c'est difficile. Donc, je pense que je suis rendu là à penser à autre chose.
Oui, justement, 42 ans, bon, c'est parfois, ça peut être considéré comme vieux, en fait, dans le milieu du sport. Ce sont les derniers athlètes qui pratiquent encore à cet âge.
Oui, bien, effectivement, surtout pour les sports, pour les personnes ambulantes, en fauteuil roulant, ça se passe un petit peu plus vieux quand même. Là, le sport permet à être plus vieux. Donc, souvent, parce que les accidents se font plus à un âge mature ou, en tout cas, en général, là, on peut remarquer que les personnes en fauteuil roulant ont une carrière sportive un petit peu plus longue. Mais même en escrime, puisque, tu sais, c'est sûr que la rapidité est importante, mais surtout la stratégie qui est importante. Donc, on peut voir souvent en escrime des personnes un petit peu plus matures qui vont quand même performer, là, même si ils ont dans la quarantaine.
Mm-hmm. C'est intéressant ce que vous amenez. Monsieur Mainville, vous avez déjà fait une série de chroniques à Canal M. Oui. Est-ce que les communications sont un domaine où on pourrait vous entendre?
Ah, je ne sais vraiment pas parce que je suis pas nécessairement à l'aise. Je suis à l'aise de parler, là, ça me dérange pas, mais je veux dire en tout cas, en même temps que le sport, c'était peut-être un petit peu difficile parce que ça me demandait beaucoup de préparation. C'est pas un domaine qui est naturel pour moi. Là. Donc ça me demandait de faire beaucoup de recherches. Puis c'est pour ça qu'il a fallu que je mette un terme à ça parce que je voulais mettre ma dernière année d'escrime, donner le maximum que je pouvais donner. Mais on verra là, les opportunités que j'aurai. Je dis pas non, mais je sais pas.
Mais vous mettez pas de pression. Pour le moment, vous vous concentrez plutôt sur ces Jeux paralympiques à Rio qui s'en viennent en septembre 2016. On vous souhaite une bonne fin d'entraînement, de bonnes compétitions et on espère pouvoir vous suivre vraiment dans ces nouvelles compétitions. Pierre Mainville, vous êtes escrimeur en fauteuil roulant et un des bons espoirs pour le pays aux Jeux olympiques de Rio. Merci de nous avoir parlé quelques minutes aujourd'hui.
Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Bonjour à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot clic CVLD ou sur Twitter. @canal_m. On revient sur cette sortie publique du 13 avril dernier de divers organismes concernant les lacunes des soins à domicile et de l'impact sur les aînés. On estime à quelque 16 500 personnes le nombre d'aînés en attente de services et de maintien à domicile au Québec et le temps d'attente varie de 6 mois à 1 an en moyenne. C'est un dossier important qui est suivi entre autres et qui est porté aussi par le réseau FADOC. Je m'entretiens avec M. Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce midi.
Merci à vous.
La semaine dernière, justement, le réseau FADOC s'est joint à d'autres associations, quelques députés de l'opposition, afin de dénoncer les lacunes du gouvernement en termes de soins à domicile.
Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que ça fait quand même plusieurs années que le Québec jongle avec des politiques de vivre et vieillir chez soi le premier choix. Donc, on fait un remodelage, en fait, des politiques, on change les noms, mais il n'y a toujours pas grand-chose qui est mis de l'avant concrètement. Donc, aujourd'hui, après plusieurs années, on voit qu'il y a vraiment eu une diminution de services, de soins, à travers toutes les restructurations qu'on fait et que les gens, finalement, ben, ils ont plus vraiment de choix.
Justement, un investissement dans le soutien à domicile, dans les services à domicile, faisait pourtant partie d'une promesse de la campagne de 2014.
Oui, ben en fait, on pourrait reculer même jusqu'en 2006-7-8 où on a commencé à faire ça. Après ça, 2008, 2009-10, 2012-14. Malheureusement, à chaque fois, les sommes qu'on veut allouer semblent diminuer. Ou en tout cas, quand on fait une promesse, finalement, quand on verse, ou en tout cas, là, on vient de voir dans le dernier budget l'ordre d'à peu près 60 millions, mm-hmm. alors qu'on parlait il y a quelques années de l'ordre de 500 millions sur quelques années à 1 milliard. Donc, c'est sûr que on semble y aller à tâtons, on semble ne pas avoir de planification concrète, alors qu'on sait très bien depuis très longtemps que la population vieillit au Québec plus vite qu'ailleurs au Canada, et que en ce moment, finalement, si on propose à peu près 15% d'augmentation dans cette desserte de services-là, ben la population uniquement des 85 ans, elle, va croître de 30%. Donc, on est en déficit tout le temps, là.
Oui, et justement, bon, cette augmentation de 15% reste que d'année en année, on est capable d'observer une augmentation de 50% des demandes et des besoins.
Oui, ben tout à fait. Dans le fond, c'est que les gens, on se rend compte que on a un facteur qu'on appelle, nous, le facteur « ça dépend ». Ça dépend d'avoir des soins si dans cette région-là, il y en a. Ça dépend d'avoir des soins dans une autre région s'ils ont les moyens d'en donner puis il reste du budget. Ça, on peut pas fonctionner comme ça dans un système de santé, premièrement, et on peut surtout pas fonctionner comme ça avec la santé des gens. Parce que ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens doivent payer de leur poche des soins, soit via des entreprises d'économie sociale, soit via d'autres sortes d'entreprises privées. Et à ce moment-là, il y a un déficit, donc on n'est pas capable de le payer. Là, on démontrait dans deux cas types, mm-hmm. avec tout ce qu'on disait, tout ce que vous allez entendre est vrai, seuls les noms ont été changés, donc on ne sait pas de la fiction. Là, les gens ont un déficit mensuel de 100 $ dans les deux exemples qu'on donne. Et dans certains exemples, les gens vont avoir des enfants qui vont contribuer comme proches aidants et vont même y mettre de l'argent dans un des exemples qu'on a donné, mais ils n'en ont plus après une année de l'argent, les gens en mettent. Donc, on est en train de siphonner la vie de ceux qui ont besoin de soins et la vie de ceux qui ont des parents ou des gens qui ont besoin de soins.
Tout à fait. Vous avez démontré justement qu'un aîné doit en moyenne dépenser entre 200 et 250 $ du côté des services privés. Et alors qu'un aîné sur deux qui a 75 ans et plus a un revenu annuel inférieur à 20 000 $ Donc, ça ne peut pas durer.
Non, tout à fait. Puis souvent, on va entendre, puis on l'a entendu, quand on parlait des frais accessoires, notamment, qui est un autre dossier qui fait que les gens s'appauvrissent, le ministre lui-même a dit, écoutez, les gens sont capables de payer ça. Ben, je ne sais pas sur quelle planète il vit, parce que quand on voit les chiffres que vous venez de donner, au Québec, on a 44 % de nos aînés qui ont besoin du supplément de revenu garanti. Donc, à la base, ces gens-là, quand on fait moins de 20 000, je comprends qu'on ne paie pas beaucoup d'impôts. Par contre, on en paie quand même. Nous, on le démontre dans nos exemples. Et à ce moment-là, si on paie le loyer moyen, puis on a pris l'exemple de Montréal, la nourriture, donc on n'y arrive pas. Mm-hmm. Donc, forcément, si on nous rajoute des frais, que ce soit pour le maintien à domicile, les frais accessoires ou autres, on n'est pas capable. Mm-hmm. Et on paie de notre santé.
Justement, M. Prudhomme, ce manque d'investissement a des impacts concret sur la vie des aînés. On l'évoquait aussi même sur la vie de l'entourage, donc des proches aidants, de la famille, de ces aînés. Qu'est-ce qu'on peut remarquer justement comme premier impact?
Ben, le premier, c'est que les gens sont pas capables de vivre dignement. Et dignement, je parle pas dans le luxe, c'est-à-dire de recevoir ce qu'ils ont besoin actuellement comme soins et services dans le cas de gens en perte d'autonomie. Ça, c'est la première chose directe et ça affecte leur santé directement. La deuxième, dans le cas des proches aidants, souvent la famille ou en tout cas des amis, ces gens-là vont devoir s'absenter du travail, donc vont payer de leurs vacances ou de leur journée personnelle pour ceux qui en ont. Et dans certains cas, il y en a même qui vont diminuer leur horaire de travail de façon permanente. Donc, non seulement ils s'appauvrissent actuellement, parce qu'en plus, ils déboursent pour la personne, parce qu'elle n'a pas assez d'argent, mais ils s'appauvrissent pour leur retraite future, parce que si on ne paie pas 5 jours de fonds de pension ou de régie des rentes, ben on n'en aura pas l'équivalent de 5 jours quand on va prendre notre retraite. Donc, on est en train d'appauvrir les futurs aînés de notre population là, qui vont arriver là dans 20-30 ans. Donc, en bout de ligne, les proches aidants, malheureusement, souvent, c'est eux qui vont même se retrouver les premiers sur la scène une fois que la personne, à titre d'exemple, si elle est décédée, ben le proche aidant va devenir malade à son tour. Mm-hmm. Donc là, on est dans un cercle d'enfer. On ne peut pas faire ça.
Tout à fait. Le regroupement des aidants naturels du Québec avait d'ailleurs dénoncer ce rapport utilitaire qu'entretient le gouvernement avec les familles et les conjoints des personnes aînées, des personnes handicapées. Quel est votre son de cloche par rapport à ça, à ce rapport-là, justement, où on déleste un peu de responsabilité sur les proches aidants?
Ben écoutez, de voir, on sait que quand on a de la famille ou des amis proches, on va aider tant qu'on peut. Ça, c'est une première chose. Mais là, le gouvernement est en train d'avoir un désengagement total au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on privatise plein de choses. Et de l'autre côté, on en demande de plus en plus aux proches aidants qui, en passant, ne coûtent rien au gouvernement. Donc, on est comme en train d'avoir un cheap labor. En fait, c'est même plus un cheap labor parce qu'il ne coûte rien. Mm-hmm. Ou on va dire de faire plus en plus puis de responsabiliser les familles, parce qu'on entend ça des fois, de dire, ben il faut responsabiliser les familles, c'est leur obligation, c'est leurs parents. Oui, on veut bien, mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que, premièrement, nos enfants, on en a plus 6, 8, 10 par famille. On en a au Québec 1,8, donc même pas 2. Et de l'autre côté, ben malheureusement, donc ça en fait moins pour prendre soin de la famille. Et en plus, c'est que souvent, malheureusement, avec la mondialisation, les enfants sont même plus à côté des parents. Ils sont un peu partout dans le monde. On veut bien se responsabiliser d'une part, mais de l'autre part, il ne faut pas non plus que l'État se déresponsabilise.
Oui, l'attente et les coupures d'heures dans les soins à domicile affectent aussi la santé physique et psychologique des proches aidants. Il y a beaucoup de gens qui se tournent justement vers les entreprises privées pour aller chercher et en fait en complément de ce que le système public peut leur offrir.
Tout à fait. Puis on a vu d'ailleurs dans les médias il y a quelques semaines où on disait que ces entreprises-là poussent comme des champignons. Bien entendu, lorsqu'il y a un vide, l'humain n'aime pas ça, puis il va le combler. Donc, étant des libres entreprises, les gens vont créer des entreprises pour offrir des soins que les gens ont besoin. Nous, ce qu'on dit, c'est on n'a rien contre ça comme tel. Ce qu'on en a contre, c'est le fait que le gouvernement se désengage et laisse la voie ouverte au privé. À ce que je cherche au Québec, quand nos aînés, nos bâtisseurs ont mis sur pied le système de santé qu'on a aujourd'hui, le monde était pour un système de santé universel, accessible et gratuit. Gratuit, on s'entend, on le paie sur nos impôts, là. Hein? Mm-hmm. C'est pas vraiment gratuit. Mais à la base, c'est le système qu'on a toujours aujourd'hui. Et là, on est en train de le déconstruire petit à petit avec les différents projets de loi, sans demander à la population si c'est ça qu'elle veut. Est-ce qu'on veut s'en aller privatiser ou est-ce qu'on veut demeurer le système universel qu'on a? Et puis, nous donner les vrais coûts, de dire voici comment ça en coûterait, voici ce que ça coûterait de l'autre façon. Et puis que les gens, si on veut qu'ils décident, ben leur donner le pouvoir entre les mains. Aujourd'hui, c'est un individu qui prend toutes ces décisions-là sans consulter la population pour laquelle les services on doit leur donner. Et ben en fait, c'est ce qu'on dit aussi qui n'est pas correct. Faisons un vrai débat de société si on veut savoir ce que les gens veulent, et puis on prendra à ce moment-là des décisions en toute bonne foi, là.
Mm-hmm. Le soutien à domicile est menacé, il y a un risque de se retrouver en institution, et finalement, c'est beaucoup plus coûteux à l'État de placer quelqu'un dans un CHSLD, par exemple.
Oui, ben en fait, ça, c'était si on pouvait. Parce que même de ce côté-là, effectivement, c'est plus coûteux, comme vous l'avez dit, beaucoup plus coûteux. Et ça a été prouvé par plein d'experts à travers le monde, où certains pays, dans les pays nordiques, on voit comme on dit, les bottines suivent les babines, ce qui n'est pas le cas ici. Eux vont mettre de l'avant ce qu'il faut pour diminuer les coûts et assurer des services de qualité à domicile. Ici, si on voulait aller en CHSLD, il y a déjà à peu près 5000 personnes en attente. Pourquoi? Parce qu'au fil des ans, on a coupé des lits en CHSLD et le gouvernement ne veut pas reconstruire de CHSLD et augmenter donc les lits par la bande. Et pourquoi? Ben parce qu'il se dit que les soins à domicile coûtent moins cher, sauf qu'il met pas l'argent dans les soins à domicile. Il n'en met pas plus, il faut dire, dans les CHSLD. Donc, on a un sérieux problème de gouvernance au niveau de notre système de santé, de fonctionnement quant à la façon qu'on doit donner les soins aujourd'hui par rapport à il y a 30-40 ans, qu'il faut adapter ce qu'on n'a pas fait à notre système, et il faut surtout le décentraliser par rapport à l'hospitalo-centrique qu'on appelle. C'est-à-dire que les pays qui offrent des vrais soins à domicile vont prendre 60 à 70 de leur budget en santé, le mettre vers les soins à domicile, et un 30-40 vers les hôpitaux. Pourquoi? Mm-hmm. Ils peuvent faire ça? Bien, parce que si on garde les gens chez eux, on va désengorger les urgences et les hôpitaux, puis on va traiter vraiment les cas qu'il faut traiter à l'hôpital, point final. Et ça, ici, on n'ose pas faire ça. Comme on dit qu'on prend le tournant soins à domicile, on a à peine 20 % de notre budget santé qui va aux soins à domicile. Donc, on dit une chose, mais on fait le contraire.
Mm-hmm. Alors, c'est intéressant ce que vous amenez. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment tout de même différents modèles de système de santé desquels on pourrait s'inspirer.
Bien sûr, bien sûr. Et il faut pas essayer de réinventer la roue. La roue, elle a déjà été inventée dans ce domaine-là des soins à domicile dans d'autres pays. Bon, je dis pas que ces pays-là sont parfaits, là, mais je pense qu'il y a des modèles desquels on peut déjà s'inspirer pour adapter à notre population, un, ce qu'elle veut, parce que ça, on le sait pas, on leur demande pas, on leur impose des choses, et deux, à savoir comment dans notre culture, notre pays, ici au Canada en général, mais au Québec plus particulièrement dans le cas des soins de santé, comment on veut aborder les soins de santé. Vous savez, on est allé en commission parlementaire pour un projet « Mourir dans la dignité ». Là, le Canada est en train d'en débattre actuellement. Mais nous, on a dit tout au long de ce processus-là, est-ce qu'on pourrait commencer par vivre dans la dignité avant de penser faire un projet de loi pour mourir dans la dignité? Parce que mourir, oui, on va tous y arriver. Mais entre-temps, on vit de plus en plus longtemps et malheureusement, pas toujours dans la dignité.
Tout à fait. Ce sont des questions importantes. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui. On va certainement suivre le dossier avec vous de cette impasse concernant les soins à domicile et surtout l'impact auprès des aînés. Dany Prudhomme, vous êtes directeur général du réseau FADOC. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Je ne veux rien, vous pouvez y goûter. Je ne veux rien, venez vous abreuver. Je ne veux rien, vous pouvez écouter. Je ne veux rien, venez vous enivrer. Même si c'est de la limonade, elle pourrait vous saouler. Cette sérénade est trop sûre et trop sucrée. Je ne veux rien, vous pouvez tout goûter. Je ne veux rien, venez tout dérober. J'ai fait des toiles et voilà, je voulais des voiles, des sculptures en argile, en bois, en métal. Je ne veux rien, je ne veux rien. J'ai des mobiles qui peuvent vous sembler avec les pierres que j'ai trouvées sur mon chemin. Je ne veux rien, je ne veux rien. Je ne veux rien, mais je suis affamé. Je ne suis rien si je ne peux vous combler. Je ne veux rien, vous pouvez tout jeter. Ça ne fait rien, je vais recommencer.
Thank you.
La belle pièce ensoleillée de Guillaume Arsenault, Limonade, tirée de son album de l'autre côté des montagnes, une parution de 2016. Alors, cette pièce très, très estivale, hein, qui fait suite à ce beau week-end où on a eu 20 degrés un peu partout. À Montréal, entre autres 20 degrés, mais au Saguenay aussi. 10 degrés samedi et 10 degrés dimanche.
C'est bon.
Donc, il a fait beau. On espère qu'on va continuer comme ça pour un bon printemps qui s'annonce. Et je reçois en studio Mme Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement Trisomie 21, pour leur chronique mensuelle. Bonjour Geneviève.
Bonjour Maxime, ça va bien?
Ça va très bien et toi?
Oui, merci.
En fait, aujourd'hui, on avait envie de faire une chronique plus légère, mm-hmm. justement, et de parler d'exemples positifs d'inclusion sociale.
Exactement.
Et avant d'entrer un peu plus justement dans différents exemples qu'on va évoquer, entre autres dans le milieu médiatique, mais aussi dans le milieu culturel, dans le milieu public, finalement, on va prendre quelques minutes pour faire la distinction entre inclusion sociale et intégration sociale.
On a beaucoup parlé au Québec d'intégration dans les dernières années, de donner la place aux personnes, tout handicap confondu. Mais maintenant, on travaille beaucoup plus avec le mot « inclusion ». En fait, l'intégration, c'est de partir du concept que la personne n'a pas sa place puis qu'on finit par l'accepter puis de lui faire une place. Tandis que l'inclusion, c'est de partir du concept que la personne a sa place et qu'on lui donne sa place. Donc, je vais donner un exemple un peu plus concret pour essayer de le comprendre. Par exemple, en intégration scolaire à l'école, le jeune va aller à l'école, les parents vont devoir faire des demandes, ils vont avoir une place à l'école. Mais quand ça va être le temps de faire du français, le jeune va sortir de la classe puis va faire des mathématiques avec son éducatrice spécialisée ou avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Par contre, une personne qui est inclue dans la classe, quand ça va être le temps de faire des mathématiques, il va faire des mathématiques comme les autres, va avoir le même sujet, mais on va adapter son matériel, on va adapter, mais il va faire la même chose que les autres en même temps. Mm-hmm. C'est la différence là, qu'on peut dire pour l'intégration et inclusion.
Tout à fait. Et la nuance est importante, justement, parce que si visuellement on se le représente mm-hmm. dans une forme de diagramme et on met un cercle avec une diversité de personnes, à l'intérieur, il va avoir un plus petit cercle avec justement, à côté, en fait, les personnes handicapées. Ça, on pourrait dire que c'est l'intégration.
Exactement.
Et l'inclusion, ça vise justement,
enlever
le petit cercle dedans.
Ils sont parmi nous, ils font la même chose que nous au même moment que nous.
Exactement. Donc, c'est d'adapter au fur et à mesure, certains besoins particuliers, mm-hmm. aussi dans la mesure du possible.
Effectivement. Et il y a des choses qui s'adaptent bien, d'autres choses qui s'adaptent moins bien, mais il faut partir du besoin de la personne. Donc, la personne va arriver, puis on va dire, OK, elle a besoin, par exemple, je vais parler d'une personne qui a une trisomie 21, pour faire du français, s'il est en cinquième année, il ne va pas être au même niveau que les autres. Donc, on va lui donner des exercices plus faciles pour qu'il fasse la même chose que les autres, soit de la même matière, mais son exercice va être selon ses capacités à lui.
Exactement. Et donc, il n'aura pas besoin de sortir de la classe et de s'isoler à ce moment-là. C'est important pour tout ce qui est création mm-hmm. de liens, en fait,
interpersonnels. Sentiment d'appartenance aussi. Si, par exemple, le professeur, je ne sais pas, va parler de sexualité, puis le jeune qui a une trisomie 21 va aller dans le fond de la classe, va lire un livre de Tintin, c'est pas de l'inclusion, c'est de l'intégration. Donc, il doit être là avec les autres au même moment puis vivre la même chose que les autres.
Mm-hmm. Oui, justement, où on pourrait comparer même à un exemple que j'ai lu dans un texte ce matin à l'émission Les Voix de service concernant la revengeance des duchesses qu'il y avait eu durant le Carnaval de Québec, qui était entre autres un bel exemple vraiment d'inclusion sociale. C'est cette idée d'inclure la personne. Donc, si on compare dans un souper de famille la table des grands et la table des petits, si on invite un petit à la table des grands, mais qu'il ne participe pas, ça, c'est de l'intégration, mais de l'inclusion. Alors là, il participe et il interagit avec les
avec
autres.
Les autres.
On lui donne sa place.
Oui, puis son mot à dire la même chose que les autres au moment où c'est opportun.
Et donc, avec le regroupement pour la trisomie 21, il y a des exemples, il y a des activités, il y a des gens qui prennent très bien leur place finalement et qui sont des modèles d'inclusion sociale.
Nous, on promouvoit beaucoup l'inclusion sociale parce qu'on croit que toutes les personnes ont leur place dans la société. Donc, au départ, je vais vous donner un exemple. On fait un événement de levée de fonds qui s'appelle la course au 321 Go Parc Maisonneuve et on a besoin de bénévoles. Et on a besoin de bénévoles, de toutes sortes de bénévoles. Donc, on ouvre la possibilité aux jeunes qui ont une trisomie 21 qui veulent faire du bénévolat d'être sur place, de faire les mêmes tâches que les autres. Donc, on a des bénévoles qui ont une trisomie qui vont donner la nourriture aux coureurs. On a quelqu'un qui fait l'accueil, qui a une trisomie 21 qui accueille les coureurs. Donc, ce n'est pas un handicap d'avoir la trisomie 21 pour faire du bénévolat chez nous. On a aussi des porte-paroles, souvent qui arrivent du milieu médiatique, des acteurs, des actrices, qui promouvoient notre événement. Mais depuis quelques années, on s'est rendu compte que c'est le fun qu'on ait quelqu'un, un artiste connu pour promouvoir l'événement, mais ça nous prend aussi une personne qui a une trisomie 21 qui va être notre ambassadeur. Mm-hmm. Donc, sur nos pamphlets, on a toujours, ou lors de nos événements, une personne du milieu médiatique avec une personne qui a une trisomie 21 qui est là, qui fait le même rôle, et on fait juste adapter un petit peu.
Oui, exactement, qui est présente aussi justement dans l'espace médiatique. On parle aussi d'inclusion dans les quartiers. Vous avez des exemples?
On a des jeunes, nous, qui réussissent très bien, par exemple, au judo. Donc, ils vont dans l'école de quartier, ils suivent les cours de judo, ils passent les mêmes étapes que les autres, soit des étapes de ceinture blanche, jaune, verte, et il y a plein de couleurs, je suis toujours un petit peu mêlée, mais qui font les mêmes combats. On n'a pas besoin de faire une adaptation, on respecte leur rythme. Et les jeunes, pour leur estime de soi, le développement du goût du sport, de performance, c'est super bien. On a aussi des jeunes qui sont inclus dans des cours de danse de quartier ou par la Ville de Montréal. Ils vont aller à l'école de danse régulièrement. Ils vont faire les mêmes cours que les autres. Ils vont faire le spectacle à la fin de l'année. Puis ils ne sont pas cachés derrière la scène. Ils sont sur la scène, en avant-plan, comme les autres. Et un petit fait cocasse, ce sont souvent ceux qu'on remarque le plus lors de ces événements-là, avec leurs faciès différents. Quand le spectacle ou la compétition est terminée, c'est souvent eux qui vont recevoir les plus beaux félicitations, les encouragements des gens parce qu'on les reconnaît facilement. Mm-hmm. Et on reconnaît aussi l'exploit qu'ils ont à faire. Leurs capacités physiques ne sont pas les mêmes que les autres, donc ils doivent se travailler beaucoup plus fort pour atteindre les mêmes niveaux que les autres.
Et il y a aussi, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on parle de d'autres exemples, justement, dans les médias, entre autres avec, du côté de la mode.
Oui, chez nous, au regroupement, on a des jeunes qui sont des mannequins québécois, qui ont une trisomie 21, qui performent très bien dans leur milieu. On a Jacob et Milan qui font des concours, qui participent. Ils sont vraiment... c'est des jeunes qui adorent être photographiés, qui adorent être en avant. Donc, les parents ont dit, bien, pourquoi pas devenir mannequin? Ils ont une force à cet endroit-là. On va l'exploiter. On va les encourager à développer leur plein potentiel. Et très honnêtement, à l'âge de 2-3 ans, ils ont fait beaucoup de chemin. On les voit dans plein de revues. Et ils ne sont pas nécessairement choisis parce qu'ils ont une trisomie 21. Ils sont choisis parce qu'ils sont photogéniques, parce qu'ils aiment être là.
Et parce qu'ils dégagent quelque chose aussi.
Oui, oui. Et c'est le fun parce que ce sont des jeunes qui ouvrent la porte aux mannequins qui sont différents. Et on en voit de plus en plus, je pense, à des revues comme... pas des revues, mais en fait des compagnies comme L'Aubainerie qui a sorti des mannequins qui ont une trisomie 21. On a aussi Tommy Hilfiger qui a sorti des vêtements adaptés aux personnes qui ont un handicap. Donc, c'est vraiment important de ne pas les oublier, ces personnes-là, et de les inclure dans nos choses.
Il y a aussi Cathy Mead, qui est tête d'affiche de produits pour cheveux, beauté et pin-up.
Oui, elle a été vraiment choisie parce que la compagnie a sorti une branche qui s'appelle Fearless. Et quand ils ont parti cette gamme de soins-là pour les cheveux, ils ont pensé tout de suite à elle parce que c'est une ancienne athlète des Jeux paralympiques, très impliquée. Et ils ont dit, ils la connaissaient déjà, ils ont dit, c'est fait pour elle. Donc, c'est vraiment leur Eugénie. Donc, elle est là, présente. Ça va super bien pour elle. Elle a une belle carrière.
Bien, et c'est intéressant, justement, de voir ces exemples dans un milieu qui est assez codé et rigide au niveau de l'apparence, de la beauté, de ce qu'il faut représenter. Il y a aussi des émissions de télé.
Oui, mais j'imagine que vous avez vu la gang de malades qui embauche des personnes qui ont un handicap. C'est vraiment le fun de les inclure. On a vu aussi une jeune fille dans une T9 qui avait une trisomie 21.
Tout à fait.
Fonctionne super bien. Et c'est vraiment leur goût à eux. Ils ont le goût d'être sur scène. Ils ont fait des cours de théâtre. Ils ont développé cette facilité-là. Je pense à la gang de malades, ils doivent travailler avec une oreillette dans l'oreille. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça.
Tout à fait. Ils sont présentement en tournage pour la saison 2.
Exactement.
Rapidement, ce soir, il y a quelque chose à la télé à surveiller.
Oui, on est à l'émission La Guerre des clans, le regroupement pour la 13e 21, une équipe. On est 5 personnes accompagnées des Denis Drolet. Et à cette émission-là, on a une personne qui a une 13e 21, Gabriel De Villers, qui est participant. Donc, il répond aux questions comme les autres. Il est inclus dans notre équipe. Un vrai champion.
Ah ben, on vous souhaite bonne chance pour cette émission, La Guerre des clans, à surveiller ce soir. Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement pour la 13e 21, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités, Geneviève Labrec, qui est encore en studio avec nous, Danny Prudhomme du réseau FADOC, M. Pierre Mainville, escrimeur en fauteuil roulant, et on avait commencé l'émission avec l'humoriste et auteur Janie Barré. Demain, on parle avec Olivier Lajoie de Trivel, une compagnie qui fait des tricycles adaptés pour les enfants vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Je remercie mon équipe technique, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.